Bonjour à tous les auditeurs de Radio Aligre. Bonjour Isabelle.
Bonjour Nathalie.
Isabelle Raviolo. Bonjour Christophe, bonjour. Ange Beau, collègue qui nous fait l'amabilité de venir aujourd'hui. Et moi-même, Nathalie Perrin. Voilà, on est en direct, samedi 15 mai. Tout va bien pour une émission qu'on a appelée avec Christophe Ange Beau, Errance et éducation, de la nécessité de lire Fernand Deligny. Voilà, on va vous parler de ce grand homme... éducateur, pédagogue, on pourrait dire anti-éducateur et anti-pédagogue, ça serait beaucoup plus juste.
Oui, je trouve.
Quelqu'un
oui.
qu'on a décidément un peu trop oublié, même s'il y a chez l'Arachnéen, on sera amené à en parler, une réédition quasi complète de ses œuvres, bon, voilà, qui a fait quand même du bien puisque c'était une œuvre qu'on n'arrivait plus à trouver. Voilà, donc alors aujourd'hui avec Christophe Ange Beau, dont je fais une petite présentation. Voilà, qui est professeur de français en collège, dans le Val-d'Oise, qui, par choix, hein, Christophe, pour t'adresser à l'ensemble d'une classe d'âge, nous dis-tu, avant l'orientation de fin de troisième. Tu travailles aussi avec les enfants du voyage depuis 2010, dans ce même collège. Tu as des pratiques d'ateliers philosophiques au collège. Et puis tu tiens un séminaire au Collège international de philosophie, donc tu es un de nos collègues, voilà, où tu as une direction de programme dont le titre, tu m'arrêtes si il n'est pas juste, s'appelle « L'institution du peuple, paideia, critique, souveraineté ». Et tu as voulu revenir dans ce séminaire sur la crise de l'éducation dont parlait Hannah Arendt par un autre biais, en la remettant en perspective sur une période longue. Et tu essaies de repenser de manière critique et archéologique le projet moderne d'instituer un peuple rationnel qui soit sujet souverain de la démocratie, pour mieux comprendre les limites ou les apories de ce modèle qui se révèle dans la crise conjointe du rationalisme et de la démocratie. Et puis, tu nous dis également qu'à un certain niveau, tu essaies de mener cette tâche comme une praxis. Donc, on y reviendra dans l'entretien que tu nous donnes aujourd'hui, que l'on a ensemble sur Fernand Deligny. Une praxis, la réflexion étant toujours indissociable pour toi de la pratique quotidienne du métier d'enseignant et de l'effort de transformation ou de déplacement qui permettrait de soulager un tant soit peu le mal-être massif des enseignants et des élèves dans le système scolaire.
Oui, et je relis à cela tes lectures d'Hannah Arendt de La crise de la culture, où il est vraiment question de cette crise de l'éducation qu'on va retrouver également dans les œuvres de Veil, hein, de Simone Veil.
Tout à fait. Et enfin, une dernière problématique, donc cette praxis dans ton esprit est indissociable d'une tâche à la fois pédagogique, thérapeutique et politique. Et c'est donc sur ce point-là que tu as rencontré Fernand Deligny. Alors, comme on est chargé dans notre émission Philosophie au présent de donner envie de découvrir les auteurs dont nous parlons, je propose là de commencer, avant de donner la parole à Christophe et d'entamer un dialogue, nous trois, autour de cette table sur Fernand Deligny, de faire une petite présentation pour nos auditeurs. À partir, je le dis, donc de l'édition quasi complète qui est apparue dans l'Arachnéen, la maison d'édition l'Arachnéen, des œuvres complètes de Deligny, qui a été, dont l'éditrice est Sandra Alvarez de Toledo en 2007. Alors, Fernand Deligny est né en 1913 à Bergue, dans le Nord. Son père a été tué au combat en 1917. En 1919, Fernand Deligny est donc pupille de la nation. Entre 1919 et 1931, il a une scolarité qui s'achève par un baccalauréat du côté de Lille. Des années 31-34, il refuse d'entrer à Saint-Cyr, donc de prendre une carrière militaire, alors que c'est pourtant ce que sa famille souhaitait. Il abandonne Hippocagne pour des cours de philo et de psycho à l'université de Lille. Mais il passe son temps aussi au cinéma, qui sera très important dans son œuvre, y compris de pédagogue, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, et au café, où il joue au 421. Voilà, il rencontre Pierre Hirsch, un de ses amis, voilà, jusque dans les années 70, qui dirige un ciné-club et qui va aider Deligny dans ses publications et dans ses différentes tentatives qui ont été au nombre de trois dans sa carrière de pédagogue. De 33 à 35, il est rédacteur en chef et il commence à aller à l'hôpital d'Armentières, à 15 km de Lille. Et puis, il y a à cette période-là, comme les auditeurs le savent certainement, des manifestations fascistes. Et donc, il s'inscrit aux jeunesses communistes. En 1938, il est instituteur suppléant. Il commence dans le 12e arrondissement, dans une école primaire qui s'appelle rue de la Brèche au Loup, et puis à Nogent-sur-Marne. Et il met en place des méthodes de pédagogie active, pas de cahier, sortie au bois de Vincennes, des jeux mimés. En 1939, il a un poste d'instituteur spécialisé à Armentières, en hôpital psychiatrique, le plus important hôpital de santé mentale en France. Il y a 2500 lits à l'époque, donc il faut se représenter, c'est quasiment un gros village. Hein. 1939-1940, il est mobilisé, démobilisé, il retourne à Armentières. 1941-1942, il devient éducateur au pavillon 3, chargé des enfants arriérés profonds, inéluctables, hein, qu'on dit inéducables, pardon. Alors, il supprime les sanctions. Il organise des sorties, des jeux, des séances de sport, des ateliers. Il écrit parallèlement à son métier d'éducateur, puisqu'il a toujours voulu être écrivain. Il écrit du théâtre, des scénarios, des récits. Il est titularisé par des certificats qu'il passe. Je passe les détails. Et en 1944, paraît un premier ouvrage, donc issu de sa pratique, Pavillon 3. 45, il met en place, il contribue à mettre en place une campagne de presse contre un certain Abbé Stahl, l'abbé Stahl, qui est accusé de marché noir et de mauvais traitements sur les enfants. Bon, si nos auditeurs lisent ce passage-là dans la vie de Deligny, un moment fondamental. Alors, il y a aussi la prise en charge par Deligny d'un centre d'observation et de triage du Nord, où il reçoit 80 adolescents évadés de prison ou de maisons de correction. En juillet 45, paraît « Graines de crapule ». Et le 13 novembre, naissance de sa fille, de sa première fille. 46 va paraître le livre « Puissant personnage ». En 47, il y a des premières réunions préfigurant la grande cordée via le laboratoire de Henri Wallon à Paris, dont Christophe, tu nous en reparleras tout à l'heure.
C'est important.
Voilà, parution des vagabonds efficaces. En 48, la grande cordée, donc là, on pourrait dire la seconde tentative, hein, puisqu'on peut considérer que la première tentative, c'est l'enseignement, si on en croit les paroles de Deligny. Donc la Grande Cordée, c'est cette loi, cette association, loi 1901, dont le président était Henri Wallon. Ils étaient tous membres du PC. Et des adolescents leur sont confiés, notamment par l'hôpital Necker, via un grand professeur dont je passe le nom ici, par des services sociaux ou des familles. 1955, on peut dire que le cinéma devient un outil de la Grande Cordée. Enfin, en tout cas, c'est un appel de la part de Deligny à ce que le cinéma entre pleinement dans la pédagogie. Il écrit d'ailleurs un article qui s'appelle « La caméra, outil pédagogique ». On sait que Deligny a fréquenté la Nouvelle Vague, était ami de Truffaut, connaissait Bazin, etc., faisait partie de tout ce mouvement très fort. Il a fréquenté aussi Chris Marker, bon, qui l'a beaucoup aidé. 58, parition d'Adrien Lhomme au moment du putsch d'Alger. En 62, il y a la mort d'Henri Wallon, hein, donc le président de la Grande Cordée. 65-66, une situation matérielle difficile. Ses amis Jean Houry, grand pédagogue également, et Félix Guattari, que tout le monde connaît en tant que c'est l'ami et celui qui a coécrit avec Gilles Deleuze une œuvre en philosophie fondamentale. Donc ses amis Houry et Guattari le font venir à la Borde. Ils rencontrent Jean-Marie. Voilà, nouvelle tentative avec des enfants autistes qui commence en 69. 71, c'est le film Le Moindre Geste, hein, qui s'achève, soutenu par Chris Marker. Et puis, donc, autour du Moindre Geste, dans ces années 71, commence, on pourrait dire, la dernière tentative, celle qui va se faire autour des enfants autistes. Et nous serons amenés à en parler dans les Cévennes, autour de quelques hameaux que sont Granier, Le Serret, et puis je crois Le Panet, hein, c'est ça, dans les Cévennes. Donc un réseau, on en reparlera, où des enfants autistes vivent de manière quotidienne, font des tâches quotidiennes, et où Deligny commence, à l'aide des gens qui ont bien voulu le suivre, à tracer les cartes de ces enfants autistes. Voilà, en 76, on pourrait signaler le film « Ce gamin-là ». En 78, parution du « Croire et du craindre ». En 79, « Les détours de l'agir ou le moindre geste » chez Hachette. En 80, à signaler une exposition à Beaubourg cartes et figures de la Terre, là où les premières lignes d'air issues donc de la dernière tentative autour de Jean-Marie sur les enfants autistes sont données à voir à Beaubourg. La septième phase du dé qui paraît chez Hachette, Enfants et le silence, Galilée Spirali. Donc on est toujours en 80. 84, je signale la mort de François Truffaut. Pourquoi est-ce que Truffaut était venu voir Deligny dans les Cévennes pour l'enfant sauvage? Et Truffaut a cherché à aider Deligny, et Deligny a aidé Truffaut, donc ça me paraissait important. 85, 90, je vais très très vite, mais je renvoie vraiment les lecteurs à l'Arachnéen. Des projets de films, des émissions radio, voilà, Deligny est véritablement reconnu. En 96, il meurt à Granier. Donc dans cette dernière tentative autour des enfants autistes. Christophe, ai-je oublié des choses que tu voulais rajouter dans cette bibliographie un peu trop rapide, mais juste pour donner un petit peu un avant-goût?
Alors, tu en as dit plus que je n'en aurais mis, mais c'est très bien comme ça. Moi, j'aimerais juste signaler, dans le début de son parcours, en fait, oui. Son expérience d'instituteur, je crois que c'est entre 36 et 38, par là, parce que c'est le moment où Célestin Freinet développe sa pédagogie, commence à avoir un réseau important et reconnu. C'est une première influence qui va être déterminante sur Deligny. Par exemple, la caméra outil pédagogique dont tu parles, en fait, c'est une invention Freinet. Enfin, d'abord, c'était le journal, mais Freinet a exploré les différentes possibilités, différents outils de communication déjà à l'époque. Il avait déjà commencé à envisager l'usage de la caméra. Et je pense que c'est par ce biais-là, entre autres, bien sûr par la rencontre aussi avec André Bazin, Chris Marker, tout ce courant de la nouvelle vague juste après-guerre, mais il y avait déjà cette influence-là. Et puis l'autre élément qui me paraît important à souligner, parce que pour moi c'est un peu les deux pôles qui vont encadrer en gros le parcours de Deligny, à côté de l'influence pédagogique de Freinet, il va y avoir l'influence de la psychothérapie institutionnelle. C'est-à-dire que quand il est à Armentières, il commence à expérimenter la suppression des sanctions, des expériences de jeu, des sorties avec les personnes qui sont dans l'hôpital d'Armentières. Et on est à peu près, on est au même moment où François Tosquel développe à Saint-Alban l'expérimentation de la psychothérapie institutionnelle. Et évidemment, ça amorce à ce moment-là tout le mouvement de la thérapie institutionnelle et la critique institutionnelle qui va aboutir à la Borde après avec Jean Houry. Puis après à l'antipsychiatrie. Et donc on voit que très tôt, sa carrière a été... sa carrière, c'est un mot qui est absurde concernant Deligny, son anti-carrière d'anti-pédagogie et d'anti-psychiatre ou d'anti... a été néanmoins influencé très fortement par ces deux éléments.
Tout à fait, des influences et en même temps une singularité et un détachement.
Oui, mais oui, ce serait bien de rappeler aux auditeurs, par exemple, parce que tu peux dire quelques éléments explicatifs, concis, mais qui permettraient de fixer le cadre.
Oui, alors c'est peut-être la première question, parce qu'on t'a invité, Christophe, aujourd'hui, parce que ta rencontre avec l'œuvre de Fernand Deligny, elle s'inscrit, on l'a dit au début, tout à fait dans ta pratique. Et finalement, la première question qu'on aimerait te poser, c'est, Fernand Deligny, à quoi te sert-il pour penser ton présent? Pourquoi Deligny dans ta pratique et dans ta démarche de recherche, puisque tu es chercheur au Collège international de philosophie, tu es comme nous inséré dans la commission éducation du Collège international de philosophie, tu es enseignant. Voilà, est-ce que tu peux...
Alors, c'est difficile à résumer en quelques mots, je vais essayer de le développer correctement. Tu évoquais tout à l'heure le fait que j'essaye de mener conjointement une démarche de questionnement, on va dire... et une pratique, ce que j'ai appelé une praxis. Alors j'ai consacré les premières années de mon séminaire au Collège international de philosophie non pas à Deligny arrivait un peu comme un point limite en réalité. Je l'ai consacré à l'œuvre de Castoriadis, et donc entre autres à cette notion de praxis venue du marxisme. Je rappelle juste une des définitions que Castoriadis donne de la praxis. Il la définit comme ce faire dans lequel l'autre ou les autres sont visés comme être autonomes et considérés comme l'agent essentiel du développement de leur propre autonomie. Et il ajoute cette remarque qui, moi, m'a beaucoup marqué, qui est que la vraie politique, la vraie pédagogie, la vraie médecine, pour autant qu'elles n'ont jamais existé, appartiennent à la praxis. Mmh. Cette trinité, on reconnaît aussi une trinité que c'était les trois métiers impossibles chez Freud. Enfin, voilà, y a une histoire de ces trois termes. Et en quelque sorte, la démarche de Deligny, à cheval sur la cure avec les autistes dans la deuxième partie de sa vie, ou avec les enfants inéducables dans la première partie de sa vie, et en compagnon de route distant, je crois qu'il n'a pas pris sa carte ou rapidement, mais quand même des communistes, oui, oui. Voilà, toujours avec une forme de distance, mais avec un attachement toujours... sinon au communisme institutionnel, en tout cas à l'idée de commun. Voilà. Donc le parcours de Deligny me paraissait comme une sorte de réalisation, presque en acte, de cette praxis que théorisait Castoriadis.
Et donc, alors, dans ta pratique et quand tu as rencontré Deligny à travers ton séminaire du Collège international de philosophie comme une espèce de point limite, donc dans ta recherche, il est apparu comment? Et dans ta pratique, il s'articule comment? Qu'est-ce qu'il t'a permis de penser, de mettre en place, de réfléchir, de...
Alors... ce que je voulais dire, c'est par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure. Ouais. Deligny m'est apparu comme un point de limite, un point de rupture, c'est-à-dire à la fois le point d'aboutissement de cette chose qu'essayait de théoriser Castoriadis, et en même temps toujours dans un écart critique, parce que dans une espèce de mouvement de refus en même temps de la pédagogie, de refus de la psychiatrie, de refus de la politique aussi, et de refus de l'institution, refus du langage et du langage comme institution. Enfin, voilà, donc il y a toujours eu ce moment. On arrive sur ce point limite. Et si je le résume très succinctement, j'aurais d'autres développements à faire, mais moi, ça a correspondu aussi à un moment dans ma tentative d'appréhender les difficultés du métier d'enseignant, parce qu'enseigner en banlieue parisienne, ou même enseigner tout court actuellement, c'est pas toujours facile. Ça m'a permis d'appréhender ça plus seulement sur le mode du « il faut refonder l'institution », recréer... Moi, j'étais parti sur cette hypothèse au départ qu'il y avait un imaginaire institutionnel, pour reprendre la terminologie de Castoriadis, qui s'était développé à partir de la Renaissance, en lien avec le développement de l'État moderne, qui arrivait en fin de course. Et que l'essoufflement à la fois de nos démocraties sous les coups de boutoir du néolibéralisme et l'état d'épuisement des systèmes, des institutions en général et l'institution éducative en particulier, me semblait traduire la fin de cette longue période historique qui s'amorce avec l'humanisme à la Renaissance et qui semble arriver sur sa fin de course. Voilà. Et donc, moi, j'étais parti sur l'idée castoriadienne d'une espèce de renouvellement des imaginaires institutionnels, c'est-à-dire comment refonder, réimaginer, du côté de la praxis, ce que pourrait être l'éducation dans le monde qui est en train de se... Voilà, dans le tâtonnement du monde actuel qui est en train de se mettre en place.
Ce qui n'est pas du tout la posture de Deligny.
Ce qui n'est pas du tout, mais alors je suis très clair là-dessus, voilà, c'est pas du tout la posture de Deligny. Et quand j'ai croisé l'œuvre de Deligny, pour moi, ça a été une espèce de choc, d'écart par rapport la manière dont j'avais commencé à travailler, dont je concevais aussi, y compris mon rôle en tant qu'enseignant, en tant que syndicaliste, puisque je suis aussi syndicaliste, en tant que parent, enfin, à tout un tas de niveaux, mon rôle éducatif, on va dire, et politique, et tout ça. Et tout d'un coup, j'ai eu l'horizon de quelque chose qui ne serait pas le renouvellement de l'institution, mais un dehors de l'institution.
Tout à fait.
Parce que chez Deligny, il y a cette espèce de radicalité-là, d'un en dehors de l'institution, d'un en dehors du pouvoir, hein, cette espèce d'utopie... dans un lieu, comme il dit, un endroit, d'un accès à une forme d'état, alors de nature, je ne sais pas. Il dit souvent qu'il faut relire Rousseau et qu'il y a des bonnes raisons d'aimer Rousseau.
Ouais.
Et voilà, il y a un moment, je me suis dit, là, il se passe quelque chose. Je voulais lire un texte qui est dans, je ne sais pas si tu l'as cité tout à l'heure, singulière ethnie, nature et pouvoir, et nature du pouvoir, en 1980.
Ouais, je ne l'ai pas cité, pourtant il est dans ma bibliothèque, voilà. C'est une erreur.
Il y a un texte où il part d'une relecture de Pierre Clastres, où il essaye de définir sa propre pratique, enfin, ce qu'il estime être le groupe qui l'entoure à Mont-Noblet, enfin, dans le Gard à Granier. Et donc voilà ce qu'il écrit. Il écrit « Ethnie, vaste mot, il s'agit de nous, qui sommes une trentaine et qui n'existe en tant que nous depuis 12 ans. Qui existe en tant que nous depuis 12 ans. Il m'arrive de lire ce que disent les éthologues et les ethnologues, et il m'est apparu que notre mode d'existence, tel qu'il s'est tramé et tel qu'il persiste et se précise, ressemble étrangement à ce qu'un ethnologue, Pierre Clastres, décrit comme étant le mode de vie qui s'est avéré durable de nombreuses sociétés dites archaïques. Sur bien des points, il y a des coïncidences notables entre leur mode de vie et le nôtre, alors que nous ne sommes pas indiens d'Amérique. Et il ajoute, ces sociétés sont dites quelquefois anhistoriques, et ce qui les singularise, c'est qu'elles ont évacué le pouvoir, mot qui est souvent paré d'une majuscule. Dire qu'elles l'ont évacué est peut-être beaucoup dire, puisqu'elles ne l'ont sans doute jamais rencontré ni élaboré. Pierre Clastres décrit qu'elles ne l'ont pas laissé se produire, et ce, par la grâce d'une sorte d'intuition que le pouvoir, il n'y a rien de pire. Il semble avoir esquivé ce que le jeune ami de Montaigne désignait comme étant la malencontre. Le jeune ami de Montaigne, c'est la Boétie, évidemment.
La Boétie, ouais.
Ce qui m'a frappé, et qui explique le titre de ce livre, c'est que la manière dont le pouvoir se trouve évacué est aussi simple qu'un drainage. Quoi de plus simple qu'un drainage ? Mais un drainage de quoi ? Du langage et de ses effets de pouvoir.
Et oui, alors c'est intéressant la relation qu'il a à Pierre Clastres, effectivement par rapport à ses enfants autistes qui sont en réseau dans ces trois villages des Cévennes, parce que c'est la référence à la société contre l'État, c'est-à-dire ils forment société. Qui n'est pas une société de pouvoir et où l'autiste peut expérimenter, peut vivre pleinement ce qui est à l'époque impossible. C'est-à-dire, quand on amène des enfants à Deligny, ces enfants sont passés par l'institution ou par la maltraitance, et par la maltraitance, parce que ça va souvent avec l'institution. Donc là, on est dans un... Avec les trois tentatives delignienne et avec la posture de delignienne et son concept de tentative, on est dans une destitution de tout pouvoir médical, de toute préinterprétation de l'agir de ces enfants, qui sont en fait des parias.
C'est ça. Hein. C'est ça.
Ce que j'ai retenu de ce que vous disiez, c'est l'idée de drainage, que je trouve très intéressante, drainage du langage et de ses sphères de pouvoir. En réalité, nous sommes pris dans des réseaux de routines langagières et de fait, nous ne nous en apercevons plus. Ça devient complètement inconscient. Et à notre place d'enseignant, c'est très intéressant, hein, comment nous pouvons désamorcer ces pratiques langagières pour retrouver ce que j'appellerais, moi, non pas une utopie, comme tu l'as fait, Nathalie, mais un lieu hors clou. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui me frappe dans Le Moindre Geste, par exemple, hein, ou dans les œuvres écrites de Deligny, c'est finalement le fait d'habiter les marges, avec des hommes en marge, des êtres humains atypiques, voilà, qui n'entrent dans aucune de nos normes, aussi bien relativement au code que relativement au langage, justement.
Oui. Alors, c'est de ça dont je voulais parler précisément. C'est-à-dire qu'en introduisant ce texte Ethnie, et le drainage du langage dont il parle, il propose des modèles de drainage, des possibilités, enfin des manières d'effectuer ce drainage. Et il évoque une qui reprend à Clastres, hein, où il signale par exemple qu'il est nécessaire que quand quelqu'un parle, qu'il soit seul à parler, qu'il parle seul et surtout qu'il ne dise rien qui puisse être redit par les autres. Et il dit dans un tel groupe sans pouvoir, il faut que une des personnes ait cette fonction d'un drain du langage qu'il adresse vers l'extérieur, qui purge de l'excès de pouvoir que peut incarner ce langage. Cette personne est souvent sans pouvoir, voire minorée, ce qui fait qu'elle ne va pas utiliser cette capacité d'expression qui est adressée à l'extérieur pour exercer un pouvoir à l'intérieur de la société.
Oui, parce qu'il faut, il faut redire aux auditeurs que Deligny, c'est un anti-psychanalyste. Hein. C'est quelqu'un qui ne... qui est intéressé de Zégotari. Et cette question du langage, il faut aussi la replacer dans le contexte de vivre en commun avec des enfants autistes qui ne possèdent pas le langage, ils le posséderaient, nous dit quelque part Deligny, mais en tout cas, ils n'en font pas usage. Et c'est cette absence de langage qui fait réfléchir Deligny sur la nécessité, de se mettre à la place de ces enfants autistes, en tout cas de porter par le langage un autre voir. Ce qui veut dire aussi destituer notre langage rationnel de sujet conscient. Hein.
C'est ça. Et c'est là où Deligny est en rupture complète avec Castoriadis. Je ne sais pas d'ailleurs si Deligny, je n'ai pas trouvé de traces, mais Castoriadis, qui est complètement fasciné par le logos occidental, Deligny est totalement incompatible là-dessus. Enfin,
impossible.
C'est impossible, tout à fait. Mais ce que je... Alors, lui, cette fonction-là de drainage du langage dans ces groupes-là, il appelle ça le langage du poète. En fait, c'est le rôle qu'il s'assigne évidemment dans la communauté de Mont-Noblesse, c'est que lui, avec son langage de poète, et il a un style extraordinaire. Il ne s'arroge pas un pouvoir, mais il draine ce groupe de cette virtualité de pouvoir du langage en l'adressant vers l'extérieur et toujours avec une espèce d'ironie, d'auto-ironie mordante, y compris par rapport à sa propre position quand il est interpellé, qu'on lui demande comment ça se passe, et toujours dans une espèce de distanciation comme ça. Alors moi, ce qui m'a frappé, au-delà de sa position, de la manière dont il a conçu ça dans, effectivement, la non-institution qu'il appelle un établi ou une tentative, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que cette position-là de draineur de langage, en quelque sorte, moi, c'est quelque chose que j'ai rencontré. C'est-à-dire que dans l'établissement où je suis, comme tu l'évoquais en début d'émission, je me suis retrouvé très vite confronté, parce qu'il y a pas mal d'élèves qui ont des difficultés, comme partout, mais en particulier à des élèves un peu particuliers, sans les distinguer non plus à tout prix, qui sont les enfants du voyage. Et je me souviens, par exemple, la première année où je suis arrivé dans ce collège, on m'avait averti avec la bienveillance enseignante, je vais me faire des ennemis si je dis ça, mais qu'il ne venait que pour les allocations. Et j'ai eu une petite fille comme ça, en sixième, qui ne savait pas lire, pas écrire. Je n'ai pas su quoi faire, je le dis très franchement. Je n'étais pas du tout prêt à pouvoir... alphabétisée comme ça, un enfant en sixième. Moi, j'arrivais de l'université, enfin, j'étais complètement décalé par rapport à ça. Elle a disparu au bout de 2 mois parce qu'elle ne trouvait évidemment pas sa place ni dans la classe, ni dans le collège de cette façon-là. Moi, ça m'a marqué, ça m'a traumatisé. C'est-à-dire, je me suis retrouvé avec une élève, alors peut-être pas non éducable, mais en tout cas non scolarisable immédiatement, sans savoir quoi faire, démunie. Et donc je me suis dit, c'est pas possible. Donc avec une de mes collègues, on a décidé d'essayer de faire quelque chose, de voir comment on pouvait se former, comprendre comment agir dans ces situations-là, ce qu'on a fait petit à petit. On a mené plein d'expérimentations, on a fait des ateliers, on est allé chercher du côté de Freinet, du côté de Wallon aussi pour voir comprendre comment ça, ces problématiques-là s'inscrivaient dans le cadre social plus élargi. Donc je suis allé vers Deligny par la nécessité de la situation, en fait. C'est-à-dire que j'étais confronté à des situations que je ne maîtrisais pas et qui m'ont amené à me poser des questions et qui, à un moment, m'ont renvoyé à Deligny parce qu'il était passé par ce chemin-là, comme beaucoup d'autres éducateurs ou enseignants. Et là, en rencontrant les voyageurs, enfin les manouches, pour être précis, parce qu'ils sont manouches là où j'enseigne, il y a aussi des gitans, comme me disait un élève chez nous, c'est un mélange de cultures, c'est-à-dire qu'il y a des gitans, il y a des manouches, il y a des hongrois, il y a des guéniches, enfin voilà, c'est un monde très complexe aussi. Et là, j'ai rencontré cette figure du draineur, en fait, c'est-à-dire la personne qui va prendre la parole, notamment par rapport à l'institution, par rapport au monde dégagé, par rapport à l'extérieur, et qui va se voir assigner ce rôle, et on voit très bien que les autres se taisent, ne vont pas enchaîner, et cette personne va prendre la parole. Mmh. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est ce langage qui nous est adressé ? Quel est mon langage, moi, en tant qu'enseignant, quand je m'adresse à eux ? Comment on discute ? Et voilà, quel est le régime du langage qui convient ? Et là, Deligny m'a aidé à penser quelque chose que je ne pouvais pas appréhender avant. Voilà.
D'accord. Eh bien, avant de reprendre la suite de l'émission, tu nous as proposé d'écouter une musique. Voilà.
Alors, c'est une musique qui vient d'Italie du Sud, très loin. J'expliquerai pourquoi après.
Voilà. Donc, on va passer cette musique, l'explication après, par Christophe Angebeau.
Scenda a Milano.
Merci beaucoup.
C'est magnifique.
C'est magnifique. Alors Christophe, tu voulais nous parler de ce morceau que tu as choisi.
Je le présente rapidement. C'est un morceau qui a été chanté par un groupe qui s'appelle le Gruppo Operaio Ezzesi. Je ne le prononce pas très bien, en 1974 ou 1975, je crois.
À Molto bene,
près de Naples. C'était un groupe qui était qui se prétendait pas seulement ouvrier, qui était effectivement ouvrier, c'est-à-dire qui était constitué d'ouvriers agricoles qui se sont embauchés pour une partie d'entre eux dans l'usine Alpha Sud, qui était l'usine Alfa Romeo près de Naples, qui participaient tous à, plus ou moins aux luttes sociales de ces années de plomb dont on entend parler actuellement. Ce qui est aussi une manière de rappeler que les années de plomb, ça a été aussi des luttes, des cultures, une culture, y a tout ça derrière. Mmh. Et donc ce groupe avait inventé une forme inédite entre concerts, théâtre, meeting, carnaval, avec des interprétations des tarentelles, donc cette musique est amoriatée, ces musiques d'Italie du Sud, dans les cortèges ouvriers à l'époque, et notamment à l'occasion des grèves chez Alpha Sud. Et... Alors cette chanson, moi je l'ai découverte par l'ouvrage d'Alessi Dell'Umbria sur la tarentelle, qui est un livre magnifique qui est paru il y a 4-5 ans, je ne sais plus. Et donc Alessi Dell'Umbria traduit le début de cette chanson, elle est un peu longue, mais je lis juste la traduction parce que c'est en dialecte napolitain, c'est difficile à comprendre même quand on connaît un peu l'italien. Alors j'ai galéré pour y rentrer, mais quand j'y suis entré, Madonna dell'Arco, quelle impression j'ai eue. Ouais, un monstre j'y ai vu, ouais, quelle peur il faisait par la bouche, chaque minute il crachait une voiture terminée. Le premier jour où j'y suis allé, je me voyais perdu. Et je sais pas, cette chanson, je la prends presque comme une image de choses que j'ai entendues, en fait, c'est-à-dire de la peur que peuvent avoir, par exemple, les voyageurs de confier leurs enfants à l'école. C'est le même monstre, en fait, c'est-à-dire que l'école caserne, l'école usine, qui était décrite suffisamment par Houry, Foucault, etc. C'est aussi cette machine-là, ce monstre qui avale les enfants et qui les produit comme des voitures, qui les fait rentrer comme une pièce de la machine.
Qui les sérialise.
Et dont ne veulent surtout pas un certain nombre de voyageurs, pas tous. Mais bon, les taux de scolarisation, ils sont entre 40-50% à l'école primaire, 25% dans le secondaire. Donc on sent qu'il y a quand même des fortes réticences pour tout un tas de raisons que je pourrais expliquer, mais c'est peut-être pas le lieu maintenant. Et cette chanson m'a fait penser à ça, avec en plus ces cris à la fin, Mangiare, comme les cris d'enfant à la sonnerie, comme la sirène de la fin de l'usine, on va à la cantine. Enfin, il y a quelque chose comme ça, il y a un parallélisme que je trouve à la fois amusant et en même temps, quand on y réfléchit, qui donne à penser. Et ce qui m'intéresse dans ces musiques-là, c'est que l'usage de ces traditions populaires ont servi d'outils de résistance. Et là, je fais un rapprochement plus analogique avec ce que dit Deligny sur les lignes d'air, justement, qui compare à des refrains. Après, Deleuze et Guattari reprendront le thème de la ritournelle. Ouais. La chose qui revient comme ça, comme cette ligne d'air que parcourait Jean-Marie, qui revient régulièrement. Et on sait que la tarentelle se dansait. Que dansait pas en cercle mais avec l'assemblée autour, les danseurs au milieu avec un mouvement lancinant, répétitif, et qu'elle avait quand même une fonction hypnotique, cathartique, de soulagement des souffrances, alors de la fameuse piqûre de l'araignée à Tarentule, mais au-delà, dit Alessi Dell'Umbria, des souffrances psychiques et tout leur cortège de somatisation lié à l'aliénation, à la domination, d'abord par les grands propriétaires espagnols sur l'Italie du Sud, et puis après dans la condition ouvrière. Et moi, c'est une des choses qui m'intéresse dans les recherches que je mène à la fois sur les systèmes éducatifs, mais bon, j'étais amené à m'intéresser à la tarentelle, j'ai un projet autour de ça aussi, c'est-à-dire les outils, les formes de résistance qu'inventent les corps, qu'inventent les traditions populaires par les rites, par les rythmes, aux formes de domination, de pouvoir, d'aliénation dont on parlait tout à l'heure.
Ce qui est donc
et je vois une analogie entre
la
tarentelle et ce que fait Deligny pour les autistes. Il y a quelque chose qui, pour moi, fait très fortement écho. En fait.
Alors, on rappelle pour les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est que les lignes d'air dans l'œuvre de Deligny et donc dans cette troisième tentative autour de Jean-Marie. On rappelle que Jean-Marie, ça s'écrit J-A-N-M-A-R-I en un seul mot, qui est bien la contraction de Jean et de Marie, mais ça le renomme, ça le fait de lui presque un personnage à part entière. Et en tout cas, c'est autour de Jean-Marie que s'est créée cette dernière tentative. La notion de tentative, on entend bien que ça s'oppose à l'idée d'institutionnalisation, d'institution, d'un enfant institué, comme tu en as fait le rappel à travers les enfants du voyage ou les voyageurs qui ont quand même de grandes défiances de l'école-usine. Alors, que sont les lignes d'air? Est-ce qu'on peut rappeler aux auditeurs ce... Et comment, alors, comment c'est apparu? En quoi ça consiste? C'est presque la part artistique de Fernand Deligny autour des enfants autistes, hein, puisque ce sont des tracés, les lignes d'air.
Alors, les lignes d'air, ce sont des tracés, ce sont les lignes. En fait, Deligny avait observé que Jean-Marie, dans la propriété qu'il avait dans le Gard, les autres enfants avaient des espèces de parcours rituels, coutumiers, qu'ils parcouraient indéfiniment. Mais en les réinventant aussi à chaque fois avec des variations d'un point à un autre sur certains points importants,
ce que Deligny appelle des chevêtres aussi.
Ce que Deligny appelle des chevêtres également, tout à fait. Mmh. Et ces parcours, Deligny a décidé de les lire en fait comme une forme infralangagière, et donc de les enregistrer sous forme de calques sur lesquels les traces étaient reportées, dessinées jour après jour, de façon à constituer une forme esthétique qui était un moyen de, alors pas de communication, mais en tout cas une sorte d'expression de soi à même le lieu commun, à même le lieu de la vie commune. Voilà.
Tout à fait.
Une inscription dans le paysage, on pourrait dire.
Tout à fait.
Voilà. Et alors, moi, ça m'a beaucoup touché, pas seulement pour les interprétations métaphoriques qu'on peut en faire en faisant un parallèle entre ces lignes rituelles, ritournelles, et puis des musiques populaires comme la tarentelle, qui sont populaires et néanmoins très savantes, ça c'est pas exclusif dans ma bouche, du tout, au contraire. Mais je me suis penché sur cette question de ces lignes d'air. J'y étais renvoyé aussi parce que j'avais lu l'ouvrage d'un anthropologue qui s'appelle Tim Ingold, qui est très 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 intéressant, qui s'appelle Une brève histoire des lignes, où il oppose, alors avec un point de vue anthropologique, ce qu'il appelle la trace ou la piste. Il fait référence à Deligny, aux lignes d'air, il en reparle, il est très influencé aussi par Deleuze, qu'il cite assez souvent. Et donc il oppose le système de la trace, qui est une forme d'appropriation du paysage, qui en dessine les contours, qui en parcourt les contours, qui l'oppose au réseau, qui est une circulation de point à point qui est imposée de l'extérieur par la domination, la verticale d'un pouvoir qui plaque ce réseau comme on le dessinerait sur une carte. Et le réseau est pour lui d'essence coloniale, en fait. C'est-à-dire que le réseau impose un schéma colonial alors que la ligne d'air est un parcours à même la surface du paysage. Et moi, ça m'a aidé à comprendre des choses qui se passent concrètement, c'est-à-dire de voir, comme tout à l'heure j'évoquais le fait d'entendre comment certaines personnes se mettaient à prendre la parole et avaient sans doute cette fonction d'exutoire, cette parole adressée vers l'extérieur. De la même façon, j'ai commencé à observer comment les manouches s'inscrivaient dans le paysage du secteur où je travaille. Il se trouve que moi, je ne vais pas en voiture dans mon collège, je vais toujours à pied, ce qui fait que je parcours beaucoup à pied, j'y vais avec mon corps. Au fur et à mesure que j'ai rencontré ces gens, que j'ai sympathisé, que je les ai découverts, ils ont commencé à me héler dans la rue, à me klaxonner, à m'emmener à la gare. Et puis, petit à petit, il y a un jour où j'ai décidé on m'a incité, une réalisatrice, parce que j'ai travaillé sur un film aussi, qui travaillait déjà avec les voyageurs, m'a dit, mais t'y es jamais allé, il faut y aller, il faut traverser la rue, c'est juste de l'autre côté de la rue. La barrière sociale est telle que traverser la rue n'était pas pensable, en fait. On m'avait interdit au niveau institutionnel. En plus, on m'avait dit, vous n'allez jamais sur les terrains, c'est interdit. Ça m'a été interdit par l'inspection, ça m'avait été interdit par ma direction. Puis un jour, j'ai désobéi, j'y suis allé. Et à partir de là, j'ai commencé à observer effectivement comment ils habitaient le paysage. C'est-à-dire leur circulation, leur cheminement, leurs traces. Et comment, en fait, ils avaient dessiné Là où des gens de l'extérieur ne voient qu'un bidonville, un taudis ou je ne sais pas quoi, avec un regard très très négatif parce qu'ils voient quelques sacs d'ordures.
Ouais.
Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est la manière dont ce paysage est habité par des traces et surtout il est parcouru par tout un tas de cheminements. Et un jour, j'ai compris ça parce que c'est un ancien déporté tzigane, enfin manouche, Raymond Gurem, qui a été assez connu. Il y a eu plusieurs films sur lui, il a écrit un livre. Il est décédé l'an dernier. Et dans son livre, il dit « Même si je ne porte pas le nom de mon père, j'ai toujours cherché à marcher sur ses pas, sur sa trace.
»
Et j'ai compris ça, qu'en fait, ce qui est important pour les Manouches, c'est pas de porter le nom de son père. D'ailleurs, très souvent, ils portent le nom de leur mère. Mais par contre, ce qui est important, c'est de marcher sur ses traces.
Mmh.
Et que c'est ce parcours de ses traces qui est inscrit dans une filiation avec les ancêtres, et qui fait qu'on habite dans l'épaisseur du temps, dans le paysage, même si ça se dit pas. Et à un moment, au fur et à mesure que j'ai développé des liens avec eux, j'ai senti que petit à petit, j'étais accepté sur ces traces. Au début, je n'étais pas, j'avais que les chiens en face de moi. Après, j'ai rencontré les enfants. Après, enfin, on rentre pas. Il m'a fallu 10 ans, en fait, pour petit à petit commencer à parcourir ces espaces, à oser les parcourir, me rendre compte qu'on me laissait, puis que plus je le faisais, plus ça devenait naturel. Et là, c'est là où je me suis dit, dans l'espace métropolitain, qui est un espace de surveillance, qui est un espace, enfin, je prends la notion de société de surveillance, où on surveille des flux de point à point, société de contrôle, avec des points de contrôle très, très stricts. Je me suis dit, justement, ils sont absolument l'antinomie de ça, c'est-à-dire que la manière dont ils circulent sur cet espace-là, c'est absolument magnifique, c'est beau, si on voit pas que les palissades en métal, c'est beau. Et cette forme-là, elle est menacée parce qu'ils étaient menacés à ce moment-là par un projet de relogement. Ils le sont toujours, d'ailleurs. Et je me suis dit, il faut comprendre ça, il faut en parler avec eux et il faut essayer de parcourir ça pour essayer de le prolonger, d'en faire quelque chose qui existe aussi dans l'établissement scolaire.
Mmh.
Et notamment, quand les élèves passent de cet espace-là à l'espace de l'établissement scolaire, comprendre que ces lignes d'air qui parcourent se prolongent en établissement scolaire et que, bien sûr, un établissement scolaire, c'est un espace absolument de contrôle. Mmh. Il flue dans les couloirs, il y a des surveillants, il y a les caméras de surveillance maintenant, de plus en plus. Mais il y a possibilité aussi de voir l'établissement scolaire comme un espace où ça peut se prolonger. Où, par exemple, les enfants du voyage, très souvent, ça, j'ai compris après coup que quand ils se promenaient dans les couloirs en allant d'une salle à une autre en disant bonjour à un professeur, en fait, ils font comme ils font chez eux.
Mm.
C'est pas, bien sûr, parfois, il y a un peu de provocation, hein, faut pas être naïf. Mais il y avait aussi quelque chose qui était un mode de parcours de l'espace qui était tracer sa ligne d'air. Et je tiens pas du tout à les essentialiser, c'est-à-dire que je pense qu'ils sont pas si différents que ça des autres élèves qui traînent dans les couloirs, en réalité, et des professeurs qui, des fois, aimeraient bien traîner dans les couloirs. C'est-à-dire que je pense que le fait de parcourir des lignes d'air, ou des traces, ou des pistes, comme dirait Tim Ingold, c'est pas propre à leur culture. C'est quelque chose que nous, dans notre culture, on a perdu, dont on a peut-être une forme de nostalgie, ou en tout cas une forme de sentiment de perte.
Mm-hmm.
Et plus se développe le contrôle, et plus se développe la surveillance, et plus on est coincé par rapport à ça.
Mm-hmm.
Et plus il y a peut-être une nécessité de réinventer des formes de circulation comme ça qui échappent à ce contrôle, où peut s'inscrire une trace mémorielle. Parce que, moi, c'est l'hypothèse que j'ai faite, c'est qu'à un moment, cette circulation, c'est elle qui permet peut-être à ces enfants-là de venir à l'école. Si on arrive à... Je me suis rendu compte qu'en faisant ce trajet-là, mon but n'est pas de les amener à l'école. Je les laisse totalement libres. Ceux qui veulent, ils viennent. Ceux qui ne veulent pas, ils ne viennent pas. Et déjà, travailler sur l'idée que l'obligation de scolarité est comme un peu suspendue, c'est-à-dire qu'on ne va pas imposer. Ça vient comme par surcroît. Si la confiance est là, ça viendra, mais c'est comme par surcroît. Et ça, c'est quelque chose qui était très important pour Deligny, le fait qu'il n'y ait pas d'obligation.
Tout à fait.
Il le critique assez souvent. Et voilà. Et donc, la rencontre avec eux et avec Deligny en même temps, ça m'a permis de penser cet espace, comme tu le disais tout à l'heure, à la marge. où peut s'expérimenter un autre rapport à l'espace, au temps, au corps, et peut-être aussi du coup à la transmission du savoir.
Mais justement, par rapport à ces lignes d'air dont tu parles, il me semble aussi qu'on pourrait les appeler des lignes temporelles, parce que c'est d'autres référentiels qui me font beaucoup penser à ce que Madeleine Delbrel écrit elle-même quand elle s'occupe des enfants des rues. Et elle explique que c'est un autre espace, une autre temporalité, où l'attention, un concept trévélien, se déploie dans et par l'écoute. En réalité, le problème de ce langage du pouvoir et de la société de contrôle que tu rappelais, Nathalie, à travers Foucault, c'est une façon de s'imposer par le langage, alors qu'il serait peut-être, à mon sens, plus fécond de laisser l'espace à autrui dans sa radicale altérité pour tenter cette expérience de la rencontre. Sinon, on s'impose.
Alors, ce qu'il faut peut-être souligner, en tout cas, de rappeler, c'est que les lignes d'air chez Deligny, c'est aussi des lignes de fuite. C'est-à-dire, c'est un très très beau paradigme d'une liberté en acte, d'une liberté agie, d'une liberté inconsciente. Enfin, je veux dire, on n'est pas dans le langage conscient, on n'est pas dans le sujet conscient puisqu'on est, sont des enfants autistes. Donc il y a là aussi l'image, la métaphore, et c'est très fort aussi ce que tu rappelles, Christophe, à travers ton expérience des gens du voyage, c'est que voilà, on a là l'agir d'une liberté dans l'espace que nous sommes en train de perdre, enfin, nos petits chemins à nous, en chantant une petite musique comme un enfant qui a peur dans la nuit. Et voilà.
Oui, comme on perd d'ailleurs le temps de la contemplation. Le temps doit être mis au profit d'un travail toujours rémunéré, contrôlé.
Et ça, chez Deligny, c'est fondamental. Les lignes d'air s'accrochent à un voir, c'est-à-dire un voir autrement à travers le regard autistique qui se fait jour dans ces lignes d'air. Christophe, un dernier mot, on te laisse conclure sur ton rapport à Deligny dans ta pratique. Et peut-être veux-tu ajouter autre chose.
Non, un dernier mot, c'est, je pense que ce que Deligny a touché et qu'on a complètement perdu depuis, c'est pour ça que sa réédition est importante, mais que c'est encore plus important de s'en ressaisir, c'est que dans la souffrance institutionnelle qui est engendrée par à la fois notre rapport au pouvoir, nos institutions, et puis en plus dans l'état de crise où elles sont actuellement, réinventer ces espaces de liberté et de circulation qui sont aussi des possibilités de transmission, parce que moi c'est ça qui m'intéresse en tant que pédagogue, c'est qu'à un moment, renoncer à vouloir émanciper les gens, vouloir les instruire, leur inculquer les choses, enfin, avec cette verticale du pouvoir, mais en même temps assurer une transmission qui est une transmission des savoirs plus immanente, ça c'est absolument essentiel, et je pense que la tâche de l'éducation aujourd'hui, c'est d'essayer de penser ça et de voir comment on fait en pratique. Alors ça se fait à tâtons, ça se fait dans un contexte qui est difficile, mais moi je crois beaucoup à ce travail très long, très lent, à ce parcours qui implique une implication des corps aussi. C'est-à-dire qu'il faut y passer de son temps, il faut y passer de son énergie, il faut y être avec l'ensemble de son corps dans la situation, inscrit dans le paysage. Voilà. Et c'est tout ce rapport-là qu'il faut, à mon sens, réinventer pour sortir peut-être un petit peu de cette crise de l'éducation et de la démocratie. Voilà.
Eh bien,
Et ce qui veut dire pas forcément réinstitutionnaliser, mais désinstitutionnaliser, ce qui n'est pas du tout à la mode en ce moment.
Oui, pas du tout. Bon, eh ben, ce sera le mot de la fin. Merci à Christophe Angebault.
Merci, Christophe.
Voilà, l'émission s'intitulait « Errance et éducation de la nécessité de lire Fernand Deligny », titre qu'a choisi Christophe Angebault. Voilà, merci. On va refaire une émission sur Fernand Deligny. On refera ça l'année prochaine avec grand plaisir.
Avec plaisir.
C'est très riche. On s'attachera à faire peut-être écouter des extraits de textes de Deligny. Voilà. On invite vraiment les auditeurs à essayer de voir des films, Isabelle, tu nous les as rappelés, sur YouTube, qui sont visibles, de Fernand Deligny, qui sont splendides.
Super.
Voilà. Merci beaucoup aux auditeurs de Radio Alibre. Merci à Geoffroy.
Merci Geoffroy.
Et puis il y a un autre technicien dont je ne connais pas le nom. Lucas, voilà. Ben voilà, c'est le bonheur du direct. Merci à nos techniciens de nous aider à faire une émission qu'on espère qui vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Très bonne journée sur Radio Alibre. Merci.